Sur l'engagement du ministère de la Culture dans la lutte contre l'illettrisme. Mais il y avait une autre, il n'y avait pas que l'agence de lutte contre l'illettrisme, il y avait aussi une direction du ministère de la Culture au nom très bizarre, la DGLFLF, la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, dont je me demandais bien de quoi elle pouvait bien s'occuper à part du respect de la loi. Sur la langue française. Et donc j'ai découvert en fait qu'on avait une direction centrale au ministère de la Culture qui travaillait avec un certain nombre d'acteurs qui étaient eux en contact avec une population dont j'ignorais en 2006 jusqu'à l'existence les personnes en situation d'illettrisme. Et puis le deuxième sujet, ça sera donc l'action culturelle universitaire et les débats que j'ai pu avoir, alors de manière très pratique, en tant que vice-présidente, donc en tant qu'actrice de l'action culturelle, mais dont j'ai fait une reprise en recherche et une reprise théorique dans deux articles que j'ai publiés dans la revue de l'Observatoire des politiques culturelles et ensuite dans une revue québécoise de sociologie autour de ce double, enfin ce binôme notionnel démocratisation-démocratie. Alors revenons aux personnes en situation d'illettrisme. Donc j'ignorais ce phénomène puisque à l'époque, au début des années 2000, le scandale de l'illettrisme était déjà identifié, notamment par tous les réseaux et les organisations non gouvernementales qui étaient en lien avec les populations les plus paupérisées. En France, je pense notamment à Thédé Carmonde, qui a eu un rôle très important dans la dénonciation du scandale de l'illettrisme. Mais en fait, l'illettrisme n'apparaissait pas parce qu'il y avait un autre problème qui était peut-être plus immédiat, qui était celui de l'analphabétisme. L'analphabétisme, c'est la difficulté ou l'impossibilité de lire et d'écrire, tout simplement parce que vous n'avez pas fréquenté l'école. L'illettrisme, c'est autre chose. C'est la difficulté, voire l'impossibilité, de lire et d'écrire alors que vous avez fréquenté l'école et donc vous avez, en principe, appris à lire et à écrire. Et l'illettrisme n'était pas devenu un problème public comme il a pu le devenir sous l'impulsion de l'Agence nationale. Et cette construction institutionnelle d'un problème public a été très bien décrite par le sociologue Bernard Lahir dans un, pour moi, ce qui est un de ses meilleurs ouvrages, L'invention de l'illettrisme, et qui fait pendant, à sa manière, à l'invention des politiques culturelles. On voit qu'il y a des inventions des deux côtés, mais d'un côté, il y a l'invention d'une stratégie, et de l'autre côté, il y a l'invention d'un problème public. Donc, ce public des personnes en situation d'illettrisme, je pensais que peut-être il pourrait vous intéresser à cause du travail que vous avez à faire dans le département de l'Essonne, tout ce travail territorial que fait la scène de recherche, et parce que c'est un phénomène qui caractérise plutôt un public masculin. Un public qui vit plutôt à la campagne ou dans les zones périurbaines. Un public une partie de la population qui est en diminution. Quand j'ai commencé à travailler sur ce sujet, 11% de la population française était estimée comme étant en situation d'illettrisme. C'est énorme, hein, 11% de la population. Aujourd'hui, les dernières estimations, qui sont assez fiables, puisqu'elles sont faites au moment de ce qu'on appelait les trois jours, qui sont assez fiables, on estime à 7% de la population des personnes qui sont en difficulté de faire autre chose que signer de leur nom un papier qu'ils peuvent difficilement comprendre parce qu'ils sont plutôt en situation de déchiffrer que de lire. Donc 7% de la population âgée de plus de 16 ans, c'est 2,5 millions de personnes. Ce n'est pas une petite cible. Lorsque le travail a été commandé par l'Agence nationale et la DGLFLF, en fait, l'idée, c'était de révéler au monde de la culture l'existence d'un public, entre guillemets, spécifique, encore inconnu des objectifs de l'action culturelle. Et il est certain que notre travail de recherche, je dis notre parce que j'étais associée à deux sociologues, Christian Guinchard et Martine Burgos, et très clairement, notre travail de recherche a contribué à apporter de la lumière sur ce sujet, non pas de la lumière pour mieux le comprendre, mais tout simplement à publiciser ce sujet dans la société. À l'occasion de ce travail de recherche, j'ai pu alors à la fois confirmer les observations que j'avais faites sur le travail des médiateurs culturels et des structures culturelles qui s'investissent dans la médiation. Et j'ai découvert aussi quelques nouvelles caractéristiques. La première chose qui m'a frappée, c'est le sentiment de gêne vis-à-vis de cette population. Une gêne que l'on va ressentir vis-à-vis d'autres populations que l'on peut qualifier d'empêchées. C'est-à-dire qu'on est pris en tension entre, d'une part, un certain réalisme, je dirais même pas sociologique, tout simplement humain. Il y a des personnes qui sont objectivement en situation de pauvreté, objectivement en situation d'exclusion, objectivement en situation d'empêchement de participer non seulement à la culture, mais à plein d'autres aspects de la vie de tout le monde. Et puis, tension entre voilà, cette vision assez objective de la réalité, et puis le désir de ne surtout pas enfermer ces personnes dans une difficulté vécue, dans un handicap, c'est-à-dire l'idée que cette personne ne se résume pas à la difficulté vécue et qu'il y a toujours quelque chose à faire pour que cette personne puisse exprimer des potentialités. Donc ça, cette tension, elle est très perceptible dans le vocabulaire employé à propos d'une manière des personnes en situation d'illettrisme, mais d'une manière plus générale, de ce qu'on désigne avec un certain flou par public empêché, c'est-à-dire que d'un côté on ne veut pas les enfermer dans cette difficulté et de l'autre et puis il y a aussi la certitude, enfin la conviction en tout cas, souvent exprimée par les artistes et par les médiateurs culturels, qu'on s'adresse à l'homme en tant, enfin à l'humain en tant qu'humain, et que finalement les difficultés vécues, on va les laisser provisoirement de côté pendant le temps de la médiation, de l'atelier, etc. Et beaucoup d'artistes, beaucoup d'intervenants artistiques me disaient, mais que je sois avec des personnes en situation d'illettrisme, des enfants dans le cadre de l'éducation artistique, etc., moi, la seule chose qui m'intéresse, c'est comment on peut entrer en communication d'humain à humain, et moi c'est cet humain qui m'intéresse et je veux au fond les aider à transcender, mais je veux moi aussi transcender la difficulté que représenterait pour moi le fait qu'on me les désigne comme des publics spécifiques. Alors, des tensions dans lesquelles d'autres tensions, dont je savais par d'autres travaux de recherche que les médiateurs s'y sentaient largement empêtrés et eux-mêmes d'une certaine façon empêchés, qui souvent est résumée par les médiateurs culturels par l'opposition entre les objectifs quantitatifs de l'action culturelle et leur volonté de faire du qualitatif. Et dans le cas des personnes en situation d'illettrisme, on voyait que, étant donné qu'il n'y avait pas d'habitude de médiation vis-à-vis de ces publics, on était toujours dans du cousu-main, dans de l'adaptatif, de l'ajustement à des besoins spécifiques, mais des besoins spécifiques très mal identifiés, parce que chaque personne était porteuse d'une histoire singulière et qui ne pouvait pas être entièrement assimilée à l'histoire singulière d'une autre personne. Ce qui complexifiait grandement la tâche des médiateurs culturels. L'autre tension que l'on connaît bien dans la médiation culturelle, on l'a retrouvée de manière assez exacerbée dans le cas de l'illettrisme, une tension entre le besoin que les médiateurs, comme n'importe quels autres professionnels, d'avoir un savoir-faire stabilisé, de capitaliser sur ce savoir-faire, d'être capable de le transmettre, et par ailleurs, eh bien, d'être de fait dans l'ajustement permanent, dans les bricolages, dans l'inventivité, dans la créativité, et disons-le, au bout du chemin, quelque part, dans l'épuisement. Épuisement renforcé par le fait que ces publics-là étaient des publics très difficiles à valoriser vis-à-vis de la hiérarchie de leur institution, tout simplement parce qu'il n'y avait pas eu d'injonction politique sur le fait que ces publics étaient dignes d'attention autant que d'autres publics dits empêchés. Et puis une tension que j'ai entendue ce matin dans les présentations et ensuite dans la discussion qui a suivi la performance artistique, une tension entre justice, au sens de justice sociale, juste répartition, non seulement de l'accès aux biens culturels, mais juste répartition des moyens hein, pour s'exprimer. Et puis la question de la justesse de la relation. Si on est dans un objectif de justice, il va falloir, on va travailler sur des échelles qui sont des échelles assez importantes. Quand on est dans la justesse de la relation, on peut être jusqu'au travail avec une seule personne, comme on peut le voir. Et cette tension entre justice et justesse, elle provient d'une réflexion issue d'un groupe de travail sur la médiation culturelle qui était mené par le Centre National de la Danse auquel j'avais participé. Et à ce moment-là, il y avait un travail qui était fait auprès des personnes en fin de vie à l'hôpital et où on voyait que là, tout se jouait sur la justesse et sur une micro-échelle d'action culturelle dont on ne pouvait pas dire c'est expérimental et on va pouvoir le transformer et changer d'échelle. En fait, on se rend compte qu'on est confronté à des échelles qui ne pourront jamais être franchies. Et donc la question pour les médiateurs, c'était, alors évidemment, il y avait des besoins de reconnaissance, mais il y avait aussi des besoins de cohésion et de cohérence avec le projet de la structure culturelle dans lesquelles les médiateurs travaillaient. Et puis il y avait une autre tension qui est le temps de l'action culturelle et le temps de l'action des autres champs sociaux. Le temps de l'action culturelle n'est pas le temps de l'éducation, n'est pas le temps de l'action sociale, n'est pas le temps de l'action sanitaire et sociale, du soin, etc., de la réinsertion. Et donc, comment on ajuste ce temps généralement court de l'action culturelle avec les temps longs de l'accompagnement des personnes. Et pour terminer, et le dire dans des termes plus sociologiques, la tension entre les régimes d'action, qui était très fortement ressentie par les médiateurs auprès desquels j'ai enquêté, entre d'un côté la noblesse extrême et l'universalité de la cause, aider quelqu'un à retrouver sa place dans la société, à exister tel qu'il est et sans ce sentiment de honte qui souvent accompagne les personnes en situation d'illettrisme. Donc cette noblesse, cette universalité de la cause, et puis de l'autre côté, l'extrême précarité des résultats obtenus. C'est-à-dire que, en gros, on peut dire que les objectifs officiels, ceux qui sont rédigés, vous savez, dans les dossiers qu'il faut remplir pour obtenir des subventions, autonomie, etc., etc., en fait, on se rendait compte que les résultats étaient extrêmement précaires et que c'était simplement une occasion pour transmettre la possibilité de ressources culturelles pour des personnes qui pouvaient aussi agir sur d'autres leviers, sur d'autres ressources culturelles pour trouver leur chemin personnel dans la culture. Alors, donc, confirmation d'un certain nombre de tensions qui sont constitutives du travail de la médiation culturelle. Et en même temps, c'était la première fois que j'étais confrontée à cette tension entre l'universalité de la cause et la précarité des résultats. Peut-être parce que le discours de la culture n'avait pas eu le temps de le recouvrir tout cela, de ces discours enchantés et enchanteurs que l'on connaît bien et qui permettent déjà de tenir moralement hein, pour les acteurs de la culture, mais aussi tout simplement de justifier leur utilité sociale. Une partie du sentiment de gêne vis-à-vis de ces personnes ne venait pas seulement de la difficulté de compréhension, des difficultés qu'elles pouvaient vivre, mais aussi d'une espèce de stupéfaction face à des personnes qui ne disposaient pas de ce que Passeron appelle une pratique culturelle pas comme les autres. Passeron explique très bien que la lecture est une sorte de compétence culturelle de base dont on estime que tout le monde en dispose dans les sociétés contemporaines. Nous sommes des sociétés, des sociétés éduquées, des sociétés de savoir. Et derrière la compétence culturelle de la lecture, il y a le livre avec toute sa légitimité, l'arrière-plan du livre de l'ouvrage de littérature et l'idée aussi que le livre est un puissant vecteur de diffusion des savoirs. Donc il y avait les médiateurs culturels étaient dans un premier temps décontenancés, n'ayant jamais appris à travailler avec cette difficulté-là. Et en se rendant bien compte que ce n'était pas assimilable à des actions qu'on peut faire avec des enfants âgés de moins de 6 ans qui ne savent pas lire et pas écrire, mais qu'évidemment ce n'est pas du tout, ce n'est pas du tout la même chose. Une partie de leur difficulté, on le sait, elle vient d'une difficulté beaucoup plus générale à l'intérieur des politiques culturelles, que très souvent, on en parlait tout à l'heure avec Sylvia, on explique par le péché originel, le décrochage entre culture, éducation, etc. Oui, très clairement, on voit très bien qu'il y a, par la professionnalisation et la spécialisation des tâches, une divergence qui reste encore là et qui peut-être continue à croître encore aujourd'hui entre les trois secteurs concernés par la lutte contre l'illettrisme, l'action sociale, l'éducation des jeunes et la formation des adultes et l'action culturelle. Et on voit comment la création progressive de champs de plus en plus autonomes l'un par rapport à l'autre fait qu'il faut tisser des liens avec des structures dont on ignore jusqu'à l'existence, comme les centres de ressources sur l'illettrisme. Et donc, en tant que chercheur, je me suis retrouvée à faire un travail qui n'était absolument pas le mien, qui était d'informer les acteurs culturels que j'allais enquêter de l'existence de centres de ressources illettrisme, qui me sont apparus d'ailleurs comme des lieux tout à fait, très intéressants, et dont beaucoup de responsables, je les considère comme des médiateurs et comme des acteurs de la culture. Ce n'était pas un hasard si dans ces centres de ressources illettrisme, il y avait une volonté de travailler avec des artistes, avec des structures culturelles, pour finalement trouver des solutions autres qu'une forme de réapprentissage pour les adultes. Donc l'enjeu de coopération entre les secteurs était majeur. Ça m'a fait penser en relisant cette recherche, et dans cette recherche des choses que je n'avais pas encore publiées, c'est que finalement un des problèmes des médiateurs culturels, que ne connaissent pas du tout les médiateurs scientifiques, c'est que ils sont dans un secteur professionnel, la médiation culturelle, qui est entièrement développé et positionné à l'intérieur des structures culturelles. Jusqu'ici, ça va choquer personne, ce que je viens de dire. Imaginez un autre monde, par exemple la culture scientifique, par exemple l'éducation populaire, où les acteurs de la médiation sont situés à l'extérieur des institutions culturelles. Par exemple, si on regarde les médiateurs scientifiques, ils sont majoritairement employés dans des structures qui ne sont ni les universités, ni les organismes de recherche. Très souvent d'ailleurs, ils n'y sont pas parce que les universités et les organismes de recherche ont voulu que cette fonction soit externalisée. Donc les institutions productrices de savoir, elles sont impliquées dans la médiation culturelle, bien sûr. Hervé Dole n'est pas là, sinon il aurait déjà protesté. Donc les universités prennent leur part du travail de culture scientifique, mais majoritairement, ils sont confrontés à des médiateurs dont la sphère s'est autonomisée par rapport à leurs institutions. Ce qui donne à la médiation scientifique une dimension beaucoup plus politique, beaucoup plus revendicative, avec la possibilité de proposer des contre-modèles. Ce que les médiateurs culturels ne peuvent pas faire. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est essayer d'imaginer et de rêver qu'ils pourraient proposer des contre-modèles à l'intérieur de leur institution. Mais la réalité du travail de médiateur montre bien que quand vous êtes situé tout en bas de l'échelle hiérarchique de votre structure, vous pouvez toujours essayer de proposer des contre-modèles, vous avez peu de chances d'être entendu. On est déjà arrivé aux 20 minutes, donc je ne vais pas vous en dire davantage sur ce que j'entendais dans cette enquête, sur finalement les illettrés seraient presque les non-publics absolus de la culture, parce qu'ils ne bénéficieraient pas de cette compétence culturelle de base, la lecture. Et je vais terminer en 2-3 minutes, pas plus, sur l'autre sujet que j'aurais voulu aborder avec vous si on avait eu un peu plus de temps, mais le temps est contraint, c'est tout à fait normal. C'est le public prioritaire de l'action culturelle universitaire, c'est-à-dire les étudiants. Ce sont des discussions que j'ai beaucoup eues avec Volny, que j'ai aussi beaucoup eues avec Ulysse, et d'ailleurs je vois que vous avez progressé, bravo, enfin, c'est même assez impressionnant. Mais en fait, dans l'action culturelle universitaire, moi je viens d'un campus, Grenoble, qui est le champion, c'est le campus champion absolu de la démocratie culturelle. Qu'est-ce que c'est la démocratie culturelle dans notre campus? C'est l'idée que la culture, elle est pour les étudiants et par les étudiants. Et donc, d'un point de vue très technique, très, très pratico-pratique, ça consiste à subventionner les associations étudiantes pour qu'elles puissent développer des projets culturels, etc. Alors disons-le, très peu de projets artistiques et énormément de projets de programmation culturelle et en particulier d'organisation de festivals. Je vous avoue que lorsque je suis arrivée dans ce campus, qu'on m'a proposé de m'occuper de la culture et que j'ai découvert ça, j'ai d'abord été enchantée. J'étais enchantée parce que je me disais, tiens, la démocratie culturelle, ça peut exister, ça marche. Et j'avais enfourché au fond ce cheval de la culture par et pour les étudiants. Et puis nous avons fait faire une étude sociologique des publics étudiants à Grenoble. Et là, on aurait dû s'en douter, eh bien les résultats étaient assez accablants. Ils le sont devenus d'autant plus pendant la crise Covid et après la crise Covid, où c'est devenu un vrai problème public, ce que j'appellerais la misère étudiante. Donc en gros, nous avons un tiers, c'est le cas à Grenoble, mais dans bien d'autres campus aussi, nous avons un tiers de la population étudiante qui est empêchée de participer à la culture pour plein de raisons économiques, socio-culturelles, et des raisons qui sont liées au temps. Ce sont les étudiants salariés, ce sont les étudiants pendulaires. Vous savez, les étudiants qui sont juste pas assez pauvres pour avoir des bourses, mais juste assez pauvres pour ne pas y arriver. Et donc, ils passent beaucoup de temps, alors chez nous, dans les cars du département de l'Isère, mais j'ai vu que vous avez vos cars, vous aussi, qu'on n'a pas, à en être jaloux. Et donc, il y avait toute une partie de la population empêchée non seulement de participer à la culture, mais empêchée tout simplement de vivre une vie étudiante. Cette vie étudiante qui est l'école de la vie et qui était empêchée également de participer à la vie associative étudiante. Et je me rappelle une séance où j'ai enlevé ma casquette de vice-présidente culture, j'ai pris ma casquette de chercheur, j'ai infligé à mon équipe un cours sans doute très ennuyeux sur la démocratie et la démocratisation, et j'ai dit en fait, si on veut aboutir à une démocratie culturelle où chacun peut être acteur de la culture, il va falloir plus de démocratisation et il va falloir d'autres outils que nos outils habituels qui sont fondés sur le volontariat et sur l'atteinte par la communication d'un public qui peut à un moment donné ou à un autre se sentir concerné par notre offre. Et donc ça passait par le fait de se rapprocher de la formation. Et dans le cadre du réseau national Art Université Culture, on a fait une enquête entre les membres du réseau, donc un réseau qui réunit toutes les universités françaises qui ont une fonction culturelle, donc pratiquement toutes. On s'est aperçu qu'un outil très simple d'accès à la culture, qui est l'option transversale en licence et en master, du fait de la restriction du nombre d'heures de formation qui nous a tous obligés à comprimer nos maquettes de master, avait été quasiment supprimé des maquettes de master. Donc vous êtes en master, vous ne pouvez pas prendre un cours de géopolitique alors que vous êtes chimiste, de russe alors que vous êtes mathématicien, etc. Ou de culture scientifique. Et bien dans toutes les universités qui avaient répondu à notre enquête, la part des options transversales, ouvertes, gratuites et rapportant une UE, avait été réduite parfois à zéro, même dans les universités qui étaient assez leaders dans le domaine. Et donc là, pour nous, c'était assez vertigineux de penser que les bases mêmes de notre politique d'action culturelle devaient être révisées et qu'on allait se confronter à une réalité interne de l'université qui est la lourdeur de l'organisation pédagogique, la lourdeur de la confrontation aux moyens de l'université et finalement à faire une sorte de changement paradigmatique. Et puis, si je puis me le permettre, de ne plus travailler seulement avec les étudiants, mais de travailler avec les enseignants-chercheurs. De considérer que les enseignants-chercheurs ont leur part à jouer dans la médiation culturelle, dans une approche que je n'ai pas le temps de fonder scientifiquement parce que mon temps est déjà largement terminé, mais une approche d'acteur réseau, de se dire que la médiation, ce n'est pas seulement le médiateur, mais que la médiation est quelque chose qui peut faire advenir un certain nombre d'actes et de consciences culturelles, mais à partir d'une chaîne où plusieurs acteurs, spécialisés ou non dans la médiation, eh bien, vont finalement apporter les micro-changements à leur échelle. Et ça, c'est quelque chose qu'en milieu scolaire, on n'a pas complètement oublié, à travers les politiques d'éducation artistique et culturelle, hein, qui aujourd'hui sont, on peut le dire, en plein essor, si le Pass Culture ne recouvre pas complètement cela, et qu'à l'université, nous avons négligé, parce que nous avions peut-être en arrière-plan l'idée que nos étudiants sont des héritiers. Ils sont peut-être effectivement, pour un certain nombre d'entre eux, plus favorisés que le reste de la population jeune. Mais il y avait des traces dans les esprits que nos étudiants étaient déjà culturellement favorisés. Mais la massification de l'enseignement supérieur nous conduit à des constats sociologiques qu'il aura fallu la crise Covid pour que ces constats soient aujourd'hui partagés par tout le monde et admis. J'aurais encore beaucoup de choses à dire, mais je préfère m'arrêter là-dessus parce qu'il faut un temps de dialogue, je crois. Merci beaucoup.
Merci Marie-Christine. Oui, nous avons déjà passé le temps inclus dans la discussion, mais je propose qu'on prenne une ou deux questions dans la salle, si ça vous vient, sinon je les pose à moi, mais histoire d'amorcer une conversation et autour de ces réflexions, que ce soit sur l'illettrisme ou sur la question universitaire. Oui, Matej, George.
Bonjour, je suis Matej. Je me demandais, vous soulignez un point qui me paraît très très intéressant, c'est le fait que les médiateurs culturels sont subordonnés aux institutions, alors que dans la culture scientifique et technique, notamment l'éducation populaire joue un rôle beaucoup plus important. Ça me paraît un point extrêmement important de votre exposé. Je me demandais si l'intervention des enseignants-chercheurs, qui eux-mêmes sont des créatures institutionnelles, pourrait permettre de résoudre ce problème, ou s'il serait nécessaire éventuellement d'imaginer des structures autonomes, et comment résoudre ce problème, comment rendre la culture, comment libérer la culture du ministère de la Culture, quoi. Voilà. Sans pour autant en faire un élément de conflit entre le ministère de la Culture et celui de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Voilà, merci.
Tandis que Solveig s'en aille pour poser cette question.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait réagir? Comme ça, on pourrait rebondir. Oui, cette question de l'extériorité de la médiation, elle est très importante parce que, en fait, un chercheur, ça sert à quoi? Ça sert à s'étonner de ce qui n'étonne personne. Et j'ai mis moi-même pas mal d'années à m'étonner. J'ai mis du temps à réaliser que ce qui me paraissait naturel, parce que ça paraissait naturel finalement au biotope, à mon biotope, c'est-à-dire les gens que je fréquente, ça paraissait naturel à tout le monde. Et c'est quand j'ai commencé à travailler sur la médiation scientifique que je me suis rendu compte que cette petite chose, toute toute simple, permettait de revisiter la question de l'éducation populaire dans la culture. Et il est très clair que non seulement l'éviction de l'éducation populaire lors de la création du ministère de la Culture, mais aussi le fait que l'éducation populaire elle-même n'a pas voulu participer à ce mouvement-là. Enfin bon, on connaît l'histoire et on a aussi des preuves que les torts sont en quelque sorte partagés. C'est vrai que le plus grave, ça n'a pas été qu'on n'a plus bénéficié de relais auprès des publics. Le plus grave, c'est qu'on s'est empêché d'avoir des contre-modèles de politique culturelle. Or, les médiateurs culturels, ceux qui sont en permanence en contact avec les publics et avec les... J'aime pas le mot de non-public, mais ceux qui pourraient devenir des publics sont sans cesse confrontés, et Passeron le dit très très bien, hein, pas seulement à la précarité des moyens, des résultats, mais ils sont sans cesse confrontés à la difficulté de ce travail. Donc ils pourraient être porteurs de contre-modèles, mais ils ne peuvent pas l'être. Au fond, le seul contre-modèle qu'on a eu, c'est les droits culturels. Et les droits culturels n'ont pas encore aujourd'hui fait l'objet d'un examen critique. En particulier le fait qu'ils sont fondés sur la personne et non pas sur le collectif. Et donc, moi je m'interroge pour le coup en tant que chercheur sur la possibilité de penser l'émancipation autour d'un texte qui revendique les droits de la personne et non pas la puissance du collectif dans lequel la personne serait amenée à agir. Alors je ne sais pas si j'ai complètement répondu là-dedans, mais en tout cas pour moi le rôle de l'université est d'essayer d'aider les acteurs à voir comme curieux ce qui leur paraît tout à fait normal. Et c'est pour ça qu'on est empêtré, et c'était ta question sur le vocabulaire, sur les logiques d'accès, sur amener à la culture, etc. Tant que la médiation, elle est à l'intérieur de l'institution, on ne peut pas penser autrement, sauf à faire comme si on était une MJC. Et certains y arrivent très bien, c'est pas ça le problème, mais le problème c'est qu'il faut des MJC en fait, tout simplement.
Merci beaucoup. J'ai une question. J'y avais pas pensé avant, mais c'est votre exposé autour de l'illettrisme qui m'y fait penser. C'est une question que je nous pose à nous-mêmes, membres d'ICAR, sur la question de l'adresse, en fait, qui est transversale à tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Et dans le cadre d'une science avec et pour les industries culturelles et créatives, dans Thémis, l'adresse empêchée, le FALC, peut-être que vous commencez à me suivre, à quel moment on pourrait intégrer ces méthodes-là, du facile à lire et à comprendre, dans les résultats des recherches d'ICAR? Et est-ce que Humanum pourrait être une, une ressource pour le faire? Voilà, c'est une question très ouverte, mais ça me paraît être quelque chose ça me paraît évident là à mener comme réflexion.
Oui.
En fait, il y a deux choses dont on parle beaucoup dans la culture et aussi plus particulièrement dans les musées. C'est FALC, facile à lire et à comprendre, hein, et puis la conception universelle, hein, dont on parle beaucoup actuellement en muséographie. Pour le moment, c'est à l'état de technique professionnelle. On ne peut pas dire que c'est issu de la recherche, et moi, pour ma part, je ne connais pas de travaux approfondis sur ce sujet, alors qu'on a les outils dans la recherche pour le faire, en particulier FALC. Il suffit d'utiliser des outils qu'on connaît bien. Dans ma discipline, qui sont... ça fait 40 ou même 50 ans qu'on les utilise, de la vulgarisation, hein, c'est-à-dire la vulgarisation comme opération langagière de traduction dans un langage qui est le langage vernaculaire, le langage de la vie vécue. Mais là, il y a un énorme enjeu, mais aussi une énorme marche à franchir. Lisez les programmes des structures culturelles, lisez les cartels dans les musées. On a, à mon avis, beaucoup à apprendre de la vulgarisation scientifique.
Merci.
Merci Marie-Christine pour cet exposé passionnant. Et évidemment, je me sens un peu obligé de réagir quand tu parles de l'institution et de la médiation internalisée ou pas. J'ai l'impression qu'il y a quand même un troisième terme, mais peut-être est-ce une position bêtement réformiste, mais qui serait celle de la démocratisation des institutions elles-mêmes. C'est-à-dire que là, la manière dont tu le présentes, mais si je t'ai bien suivi, c'est qu'on est un peu face à une sorte de dichotomie où soit en effet c'est extérieur, soit l'institution est forcément verticale, forcément coupée du corps social, forcément voilà, en surplomb en fait, en quelque sorte, et à la fois en surplomb et dans une telle position d'extériorité qu'elle serait quasiment parasitaire en fait, en quelque sorte. Et évidemment, ça me fait un peu réfléchir, parce que je me demande quand même, j'ai quand même l'impression que les travaux de Passeron dont tu parles, sauf erreur, ont 15 ans, voire une bonne vingtaine même, si je ne m'abuse, et j'ai un tout petit peu l'impression, quand je parle aux collègues, en tout cas dans le métier, et quand d'ailleurs j'ai une posture réflexive moi-même, qu'on est quand même actuellement dans une tendance justement de démocratisation des structures, de réflexion sur comment elles sont faites pour briser justement ces positions-là d'extériorité et de surplomb. Et c'est pas d'ailleurs exclusif de ce que tu défends, mais c'est aussi faisable. C'est-à-dire qu'il y a aussi un endroit de la structure culturelle qui est exploitable, si tant est soit qu'il arrive en effet à se démocratiser. Moi, ça me rappelait quand même beaucoup ce que tu disais aussi, mais de manière un peu plus indirecte, cette étude, cette monographie sociologique des programmateurs qui a été faite et qui est maintenant un peu connue. C'était ces programmateurs aquitains sur lesquels il y a eu une programmation. Et en fait, ce qu'ils disaient, c'est qu'il fallait démocratiser la programmation et en intégrant au maximum en fait, les spectateurs au processus pour en réalité pouvoir les intégrer ensuite comme spectateurs, en quelque sorte, c'est-à-dire leur redonner du pouvoir. Et je me demande si c'est, dans ta perspective, si c'est contradictoire ou pas, ou si au contraire, il n'y aurait pas une suite d'articulations en fait, à opérer.
Oui, donc merci beaucoup hein, pour l'élément de discussion, c'est très important. Pour moi, le problème d'une médiation culturelle qui ne s'exerce qu'à partir de l'intérieur des institutions culturelles, c'est qu'elle va ralentir d'une certaine façon, parfois empêcher, mais parfois tout simplement ralentir, la production de discours de discours alternatifs, de pratiques alternatives, et sans succomber dans l'idée qu'il faut être à l'extérieur pour produire hein, ces discours alternatifs, mais force est de constater que c'est davantage possible lorsqu'on est situé à l'extérieur. Donc pour moi, c'est pas le problème d'être une institution et d'avoir forcément cette dimension un peu séparatiste hein, qu'a l'institution par rapport à l'ensemble de la culture vécue. Mais c'est que lorsque, au fond, le milieu culturel va à ce point tenir les choses, il va s'empêcher d'être contredit. Et la contradiction interne va venir des membres les moins crédibles, ceux qui vont avoir le plus de difficultés à se faire entendre au sein de l'institution. Dans la culture scientifique, en mode positif, je vois la possibilité de production de contre-discours, mais je vois aussi le décrochage, parfois complet, entre le monde de la culture scientifique et le monde de la recherche. Je le sais bien en tant qu'enseignante, ancienne responsable d'un master qui forme des médiateurs scientifiques. Un des grands défis qu'il y a dans la médiation scientifique, c'est tout simplement d'être au courant de ce qui se passe dans la recherche, de comprendre le monde de la recherche pour développer de nouveaux liens. Donc l'idée, c'était pas de dire que l'institution produit des effets négatifs parce qu'elle est institution. Et ce que j'ai dit est tout à fait différent d'une autre perspective qui est pour moi, est-ce qu'il faut du coup un tiers lieu pour se rencontrer, ou tout simplement est-ce que l'enjeu c'est pas plutôt la reconnaissance réciproque des institutions quelles qu'elles soient et des associations, organisations non gouvernementales tiers lieux quels qu'ils soient. Et ça a un nom, et c'est un très vieux mot, une très vieille pratique, ça s'appelle la coopération. C'est Guy Saez hein, qui continue à travailler sur la coopération, mais il travaillait déjà il y a 30 ans sur la coopération en disant la seule solution, c'est que chacun reste bien spécialiste de son, ce dont il est spécialiste chez lui, mais qu'il soit capable d'entrer en coopération et de reconnaître le rôle culturel du partenaire et non pas le partenaire comme fournisseur de public, une problématique que nous connaissons bien à l'université puisque très souvent on demande aux services culturels universitaires de fournir des publics hein, pour les structures culturelles et où on dit mais attendez, nous sommes nous aussi un acteur culturel et c'est pas toujours si facile de le faire entendre et de le faire reconnaître. Donc il me semble qu'autour de la notion de reconnaissance réciproque d'acteurs, qu'ils soient ou non estampillés culturels, de leur apport commun à l'action culturelle, c'est peut-être là aussi une des solutions. Il ne faut, à mon avis, ni s'excuser d'être spécialisé dans son activité, ni s'excuser de le faire bien.
Merci Marie-Christine, merci à toutes et tous. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette première intervention parce que le temps passe. On peut applaudir Marie-Christine. J'avais plein de questions, peut-être à souligner plein de trucs super. Hein, sur la tension entre qualification sociologique et assignation, j'adore. Je pense qu'à Thémis, il faudra qu'on se pose ces questions. Bien, je vous propose de passer à la seconde intervention. Je vous présente les intervenantes. Donc Sylvia Girel, à ma gauche, tu es professeure des universités, à Aix-Marseille Université. Tu es spécialiste des arts contemporain, on peut dire ça, et tu as été jusqu'à l'an dernier, je crois, chargé de mission à, comment ça s'appelle, art, culture et sciences, donc dans ton université d'Aix-Marseille. Tu as plusieurs casquettes, un peu comme Christine, tu fais beaucoup de choses, mais je voulais souligner ton implication, bien sûr, dans la création et la coordination de l'Observatoire des publics et des pratiques de la culture, dont bah, elle nous parlait, intervention. Maintenant, qui est à venir avec Elisa. Donc Elisa, ou Liori, j'ai réussi, je m'étais entraîné un petit peu. Donc tu es post-doctorante à l'université d'Aix-Marseille, au sein de l'Observatoire des publics, donc tu travailles avec Sylvia, et donc vous allez nous faire une présentation à deux voix autour. Allez, on vous laisse la parole, vous allez nous expliquer ce que.
Merci. Alors avant de faire notre présentation à deux voix, moi le côté plus l'observatoire et la présentation du projet d'observatoire, comment on l'a monté, comment on l'a pensé, et Elisa plus sur les exemples concrets, je vais revenir sur le spectacle de ce matin qui illustrait parfaitement ce qu'on fait et qui va jusqu'au bout du raisonnement, puisqu'à l'observatoire on a beaucoup de questionnaires et d'enquêtes, mais on essaye de mettre en place des protocoles qui sont réplicables, dans d'autres universités d'ailleurs, notre modèle peut être réplicable, nos enquêtes aussi, et on a une question qu'on met maintenant systématiquement dans toute enquête, quelle qu'elle soit, sur les jeunes des ECPA, sur les pratiques culturelles des étudiants, sur le Fonds régional d'art contemporain, c'est est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'événement, d'artiste, d'œuvre qui vous a marqué quand vous étiez jeune, en laissant la liberté de jeune petit ou jeune adolescent, et en laissant vraiment s'exprimer cette question, et donc du coup, je trouvais très intéressant ce matin de retrouver ça dans le spectacle. Alors, nous, on va proposer une présentation à deux voix. Donc, moi, je vais parler de l'Observatoire des publics et des pratiques de la culture, qui existe maintenant formellement depuis 3 ans, mais qui, dans l'idée et dans le concept et le projet tel que je l'ai imaginé et construit avec Elisa et Maria Elena, mes deux collaboratrices les plus proches, petite parenthèse, une des dernières fois, on était toutes les trois assises avec Marie-Christine et Elisa, c'était pour la thèse d'Elisa, sa soutenance de thèse, donc voilà, c'était une dernière fois qu'on a échangé ensemble, et qui tient à mon expérience de sociologue sur la question des publics et des non-publics. Donc moi je vais reprendre l'expression de non-public, simplement parce qu'elle est plus facile et que je ne vais pas vous faire un cours sur les différents non-publics, les indifférents, les résistants, les réfractaires, etc. Ce n'est pas le propos du jour pour l'Observatoire, mais en tout cas je pars de là, sur l'idée que on va avoir une approche, nous, dans l'Observatoire, des publics et des non-publics, pour considérer la diversité des publics, mais aussi des non-publics. C'est-à-dire qu'on peut être très public comme peu public, mais on peut être différemment non-public aussi, et c'est ce qui m'a intéressé essayer de mettre en place. Et pour le dire autrement, nous, tous ici aujourd'hui, sommes tous publics, profanes ou experts selon les domaines et les formes de création, de culture qui sont considérées. Et nous avons tous affaire dans nos professions à des publics, que ce soit des visiteurs, des spectateurs, des étudiants, des destinataires, des clients, des citoyens. Et nous avons tous aussi des opinions, et ça c'est très important, et ça rejoint un petit peu ce que disait Marie-Christine, et des représentations sur nos publics, sur ce que c'est le grand public, sur certaines catégories de publics, sur ce que seraient les non-publics. Et s'il existe une diversité de publics, ce que je viens de dire, il existe tout autant une diversité de non-publics, des publics absents, des indifférents, des résistants, etc., des méconnaissants. Et force est de constater qu'on appartient, nous aussi, et moi c'est ma dimension sociologique qui me le fait dire, à des catégories de publics les uns et les autres, et de non-publics. On ne va pas tous dans les mêmes lieux. Moi je suis passionnée d'art contemporain, moins de théâtre. Ce sera l'inverse pour certaines personnes ici. On va tous être plus ou moins publics, selon les moments. Est-ce que je suis public de la musique amateur quand j'écoute FIP en travaillant ? Pas de la même façon que quand je vais au festival, Delta Festival, Festival Lire par exemple, c'est pas la même pratique, mais c'est bien de la musique et c'est bien une écoute de la musique. Et on est des fois plus du tout public, c'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on a laissées de côté, qui ne nous intéressent plus, question d'âge, question de génération. On est différemment public selon les formes de création, hein, et puis on est des fois pas encore public, parce que les formes de création auxquelles on s'intéresse, elles émergent en même temps qu'on avance dans nos vies, et moi je pense, pour ma génération, pour le coup, à tout ce qui relève des arts numériques, qui n'existait pas dans les années 80-90. Donc forcément, il a bien fallu attendre que les arts numériques émergent pour que je puisse m'y intéresser. Donc ça, c'est un premier point qui me paraît très très important à noter, d'avoir cette approche de la diversité de ce que c'est que d'être public, et pas d'avoir une approche, je te rejoins, mais bon, on est proche dans notre façon de travailler, vu des mondes de l'art et de la culture. Moi, je me descends, je me déplace et je les vois du côté des mondes sociaux. C'est d'abord des individus qui ont une histoire de vie, qui ont un parcours. On ne rentre pas tous au même âge. Moi, je suis fille d'artiste, donc la question de l'art et de la culture, elle ne s'est jamais posée. En revanche, il y a des jeunes qui vont découvrir ce que c'est qu'une pièce de théâtre au collège à 12 ans. Ça fait 12 ans de différence. 12 ans d'habituation progressive à savoir ce que c'est qu'un tableau, ce que c'est qu'une œuvre, ce que c'est qu'une pièce de théâtre. Voilà, donc c'est forcément 12 ans d'écart, on peut les rattraper évidemment, mais en tout cas ça crée quand même une sacrée différence au départ. Donc ça c'est un des points très importants dans l'observatoire. Le deuxième point très important, c'est que on est parti du terrain. Vraiment, nous on est chercheuse de terrain, on est très sociologie ancrée, hein, approche ancrée, c'est l'interactionnisme symbolique américain, on est très recherche-action. Alors on a de la chance, c'est que du coup avec mes collaboratrices, on a à peu près 10 ans d'avance, hein, parce que c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui dans le dialogue sciences et société, et le transfert de connaissances et de compétences et de savoir-faire, ben, nous comme on fait ça depuis assez longtemps, on a un petit peu d'avance, mais il faut bien avouer qu'il y a quelques années, c'était pas aussi, aussi recherché. Du coup, on est parti de ce constat qu'il y a beaucoup d'observatoires, hein, et de lieux où on fait des enquêtes de public. En premier lieu, le département des études et de la prospective, avec beaucoup de statistiques, les pratiques culturelles des Français. On a ensuite des cabinets de consultants qui vont travailler sur commande et qui sont très très intéressants et on travaille sur leurs études. Nous, on va chercher partout, hein, c'est-à-dire qu'on prend ce qui existe et on essaye de s'inscrire en creux et en faisant quelque chose de différent. On va travailler avec les observatoires des institutions culturelles. Par exemple, le MUCEM a un observatoire permanent des publics, mais le MUCEM traite la question des publics en fonction de la politique culturelle de l'établissement. Donc, il y a certaines questions que le musée ne peut pas poser. On travaille avec eux pour aller poser des questions que nous, on peut poser et aller travailler. Une étape importante a été le programme de recherche sur public et pratique de la culture pendant la capitale européenne de la culture à Marseille, où là on a mis en place avec mon laboratoire une équipe de jeunes chercheurs notamment, c'était une des conditions requises pour faire partie de l'équipe, et on a investi tous les terrains de Marseille-Provence 2013 dans une approche très qualitative. Observation, expérimentation, et vraiment essayer de mettre en place des dispositifs d'enquête qui étaient à l'échelle du territoire, en adéquation avec le programme culturel et l'offre culturelle qui était proposée là cette année. Et là, c'était vraiment un laboratoire très intéressant, parce que c'est rare en sociologie d'avoir une programmation sur un temps défini, avec des terrains qu'on peut identifier. C'est rare. Alors là, on a la chance, nous, maintenant, qu'on est bien connus et identifiés autour d'Aix-Marseille, c'est que dès qu'un lieu ouvre, en général, on nous sollicite et on peut voir comment le public va se construire dès le début. Et ça, c'est un atout et une chance incroyable, parce que souvent, les sociologues, on les appelle plus tard. Le lieu existe, le public est déjà construit, donc on ne peut pas voir toujours, hein, comment aider à le construire. Et après, c'est tout un ensemble de recherches, donc là, ça fait écho aussi à ce que disait Marie-Christine, sur la culture scientifique, où là, on a été amené aussi à affiner nos outils et nos manières de travailler, parce que c'est très différent, culture scientifique et le monde des arts et la culture. Et notamment, en culture scientifique, il y a peu de rejet, en fait, dans l'offre, quand on offre de la science et qu'on propose des dispositifs ou des événements, il y a peu de rejet. Par contre, en art contemporain, en danse contemporaine, en théâtre contemporain, bien sûr qu'on en a. Donc nous, ce qu'on a essayé, c'est de croiser les résultats d'un côté et de l'autre pour dire, ben, est-ce qu'on ne peut pas affiner nos outils, notre manière de travailler de manière collaborative pour proposer des dispositifs qui viennent répondre à cette question des publics, mais que ce soit la culture numérique, la culture artistique, la culture scientifique, pourquoi pas la culture économique. On est en train de venir nous chercher là pour des projets qui ont lieu dans le bassin de Fos-Bair à côté de Marseille, parce qu'il y a une question de population et quel rapport la population construit avec ce territoire. Ben c'est bien un public, et même si c'est une population. Du coup, voilà, ça c'est les objectifs de l'Observatoire, hein, c'est vraiment de se situer du coup à l'interface de la recherche scientifique, on produit des résultats pour la recherche scientifique, mais en même temps d'être dans une logique de trouver des solutions et de proposer des dispositifs pour les partenaires qui viennent nous chercher et qu'ils puissent s'en saisir et les utiliser, entre guillemets, sans nous. C'est-à-dire on peut continuer à être là pour les aider, on construit l'enquête avec eux, on fait l'enquête avec eux et on vient voir ce qui se passe après l'enquête avec eux. Donc on n'est pas dans cette logique de on nous commande une enquête, on livre nos résultats, on passe à la suivante. On essaye vraiment d'avoir ce travail continu et je pense que ça c'est une vraie spécificité qu'on a mis en place. Mais on essaye aussi bien évidemment de garder un pied dans la recherche et de produire des résultats scientifiques et de nourrir la recherche dans le domaine des publics et des pratiques de la culture. Donc s'il faut lister un petit peu nos objectifs, répondre à une demande croissante d'études en interne à AMU, mais aussi en externe sur tout le périmètre. Le mise en vie se met. Allier la rigueur et l'exigence scientifique et l'expertise professionnelle. Privilégier toujours une approche contextuelle territorialisée. Créer des indicateurs quantitatifs et qualitatifs autres que ceux qui existent, c'est-à-dire les inventer en fonction du terrain. Proposer des préconisations très concrètes, qui peuvent être très simples, comme beaucoup plus complexes, très rapides à mettre en œuvre. Elisa en prendra quelques exemples, ou des fois beaucoup plus sur la durée, le temps long. C'est bien, okay, merci. Et formaliser des protocoles et outils d'enquête. Alors les enquêtes, bon là on a mis un petit ensemble, là. Un petit ensemble de toutes celles qu'on a mises en place. Mais du coup, on répond à des commandes. On vient nous chercher pour des enquêtes sur des sujets spécifiques. Nous, on fait des propositions. On a mis en place, j'en parlais à Marie-Christine tout à l'heure, une enquête sur les pratiques culturelles des étudiants. On veut essayer de savoir comment les étudiants, eux, parlent de leurs pratiques et c'est quoi pour eux une pratique culturelle. Et puis, on en a d'autres à l'échelle plus nationale. On a fait des choses sur les Olympiades culturelles, par exemple, aussi, hein, pour essayer de voir ce qui se passait sur notre territoire à nous. Donc, on a vraiment une diversité d'enquêtes. Et on met en place aussi des thèses. Donc, vous voyez, on essaie vraiment d'avoir le volet terrain concret avec les opérateurs culturels, mais en même temps, avoir ce côté monde de la recherche. Donc, on a mis en place une thèse CIFRE avec le MUCEM sur les publics éloignés. Le MUCEM a besoin de notre aide là-dessus, puisque lui ne peut pas forcément faire ça avec son observatoire des permanents des publics. On a aussi mis en place un programme de recherche sur 3 ans avec la Fondation Amidex, où là on propose de mettre en place vraiment un appareillage méthodologique avec des transferts pour essayer de proposer des études un peu clés en main, des outils de médiation, mais aussi comment on peut monter des projets culturels ou des partenariats qui soient efficaces et efficients. Donc là, on bascule dans quelque chose qui est de la recherche, mais qu'on essaye de transformer en expertise qui puisse être appliquée. Donc voilà, si je présente l'Observatoire de cette manière, Elisa, elle, va être plus dans le concret, puis après on reviendra avec vos questions, hein, mais comme on n'a que 20 minutes, je vais essayer de tenir le temps. J'ai imposé ça à Elisa, donc je vais me l'imposer aussi, hein. On reviendra sur les questions, mais vraiment ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est allier la recherche et le côté très recherche-action, mais vraiment tout le temps, le travail collaboratif, la dimension territorialisée et un périmètre défini. Nous, on travaille sur le périmètre d'Aix-Marseille Université, donc qui correspond globalement à Digne, Arles, Aix-Marseille, hein, et on va jusqu'à Toulon, hein, et en s'appuyant sur les équipes de chercheurs de l'université. Donc sociologie, médiation culturelle, sciences de l'information et de la communication, ça peut être aussi histoire, anthropologie, hein, mais vraiment d'essayer de mettre tout ça en synergie, en relation pour des enquêtes qui soient des enquêtes vraiment ajustées, mais sans oublier de penser un modèle réplicable, c'est-à-dire que finalement on puisse aussi proposer de reprendre ce qu'on fait sur d'autres territoires ou dans d'autres universités. Voilà pour une présentation en 12 minutes, je crois.
Merci Sylvia. Désolée, j'ai eu un lapsus sur notre diapo puisqu'il manquait une slide. Oui, voilà. Donc moi, je vais vous proposer un cheminement rapide sur trois dimensions qui sont saillantes en fait de nos enquêtes. Et en faisant un focus sur cette idée de l'éloignement, la distance, à partir de voilà, une catégorie des publics qu'on entend souvent évoquer lors de nos enquêtes, ce sont les voisins. Donc dans certaines de nos enquêtes, en tout cas, en tant que public de proximité, mais éloigné donc des institutions culturelles avec lesquelles on travaille. Et donc ces trois dimensions un peu qui vont guider cette présentation synthétique qui va donner plutôt des illustrations en fait, qui va essayer d'incarner un petit peu des choses qui ont été dites sur ce dispositif qui est l'observatoire. Et vont être la question des catégories, comment nommer ces publics, sont les hiérarchiser aussi, et quelles sont les méthodes qu'on utilise pour cela, et aussi la question de la participation à différents points de vue, et aussi la temporalité dans l'enquête, mais aussi dans les résultats et dans les processus que l'on suit. Donc voilà, juste pour vous dire que, comme Sylvia l'a dit, notre cadre méthodologique, disons, il va se co-construire souvent avec les partenaires avec lesquels on travaille. Et on va écouter voilà, les besoins déclarés, mais on va observer aussi des problématiques, on va poser des questions des recherches, on travaille main à main. Et du coup, on ajuste au fur et à mesure nos méthodes. Et l'idée, c'est de construire petit à petit un cadre méthodologique, empirique et théorique qui nous permette en fait de parler des mêmes, enfin, de savoir de quoi on parle quand on parle de quelque chose et n'est pas juste évoquer des notions parce que souvent on le fait et on ne les a pas vraiment compris de la même façon. Et donc on co-construit ces cadres méthodologiques, mais on a développé petit à petit aussi un peu de quelques méthodes plutôt participatives justement pour faire nos enquêtes. Donc un exemple, c'est justement les rendez-vous de voisins qui était une des préconisations qui avait été faite au FRAC Sud, donc le FRAC de la région PACA, qui s'appelle désormais FRAC Sud, Cité de l'art contemporain. Et donc voilà, ce sont des rendez-vous des voisins qui se déroulent une fois par mois et qui sont conduits par et pour les voisins de l'institution. Et du coup, pour nous, c'est un espace qu'on investit aussi dans le cadre de nos observations systématiques et aussi des discussions, enfin un lieu de récolte aussi des données. Et des créations du coup du lien, et c'est quelque chose que l'institution met en place pour établir justement ce lien avec des publics qui ne viennent pas. Alors juste c'est un exemple pour ouvrir ces trois dimensions, puisque on voulait vous parler de plusieurs enquêtes qui abordent cette question du voisinage un petit peu en filigrane à chaque fois, pas que sur ça, mais en fait on se rend compte que et nos différentes enquêtes voilà, qui sont là, on peut vous citer trois: l'Opéra de Marseille, les musées d'histoire de Marseille et le FRAC Sud, qui en fait partagent un territoire commun qui a aussi des multiples identités, donc des lieux culturels mais aussi des lieux commerciaux. Donc en fait l'Opéra de Marseille, la ville de Marseille nous appelle et nous demande une étude des publics sur 3 mois, puisqu'en fait ils avaient besoin de poser un dossier de candidature pour un label, pour l'obtention d'un label de l'Opéra national en région. Et en fait, en 3 mois, faire une étude des publics va s'avérer complexe dans le sens où ils n'avaient pas fait d'études des publics. Et donc voilà, c'est comment on va impliquer des acteurs, des voisins dans notre enquête, sachant que le lien ne préexiste pas, par exemple. Et le musée d'histoire de Marseille part aussi du constat que c'est un musée qui se situe au cœur d'un centre commercial, et en fait les commerçants du centre commercial ne le connaissent pas, ne savent pas qu'il est ouvert deux fois. Et donc de ces constats-là vont émerger ces commandes. Et donc pour la question du FRAC et ensuite la Biennale de la Joliette, on va justement d'abord commencer par comprendre le fonctionnement de ces quartiers, de la zone, Et puisque la commande était aussi comment, quel est l'ancrage territorial de l'institution, comment les personnes qui l'habitent, qui l'utilisent, le perçoivent. Et donc on va par exemple mettre en place un dispositif de photo et citation ou de reconnaissance visuelle. En fait, on va montrer une photo du FRAC à des gens qui passent par là, à quelques pas du FRAC, sachant que cette institution, elle a été... Et elle s'est implantée dans ces quartiers en 2013, dans un grand bâtiment construit pour accueillir le FRAC, donc un bâtiment d'architecte, un bâtiment remarquable, mais complètement, enfin, pas remarqué du tout. Et du coup, on va essayer de comprendre pourquoi. Donc on demande à ces personnes s'ils reconnaissent le bâtiment. Il y avait 50 personnes interviewées et il n'y en avait que 8 qui l'ont reconnu. Et donc on va essayer de comprendre aussi pourquoi. Et puis voilà, on a pas mal d'éléments, que ce soit architectural.
On était à côté, c'est-à-dire qu'on était à moins de 200 mètres du lieu.
Voilà, et donc tu peux passer à la prochaine slide, parce que du coup là on voit qu'il y a des raisons. Non, la... Oui, c'est là. Bon, il y a des photos manquantes, mais en tout cas, c'est juste qu'il y a une succession de bâtiments modernes qui vont faire que le FRAC va se fondre un peu dans cette architecture de l'espace. Mais il y a aussi la question de l'acronyme, et il y a aussi...
non.
Oui, bon, mais tant pis.
C'est pas la même chose pour l'ordinateur, mais vous allez avoir du mal à voir.
Oui. Et donc, voilà, il y a une... Non, mais c'est pas grave, c'est juste une question. Voilà, on est allé voir ce quartier, on a demandé aux gens comment ils le perçoivent, et en fait, on voit vraiment une fragmentation socio-spatiale. Les gens, ils parlent aussi de cette perception de froideur, et donc des problématiques fortes d'habiter, utiliser le lieu en tant que salarié, commerçant de proximité, etc. Et donc, voilà, le FRAC est invisible dans ces lieux-là. Et il fait partie, en fait, enfin, cette zone-là fait partie d'un gros projet de réaménagement urbain, etc. Donc, on voit aussi les critiques à ces politiques-là, et en tant qu'espace de la ville. Et donc, la première catégorie sur laquelle on voulait, enfin, la première relation était celle des catégories pour nommer les publics. Et du coup, comment prendre en compte la différence? Et du coup, on va voir qu'en s'intéressant à ces publics désignés par les structures culturelles en tant que publics empêchés, isolés, distants et éloignés, etc., qui sont en temps normal absents et captifs, en fait, on va le faire par la pratique et on va établir une sorte de cartographie ou de nébuleuse des micro-publics. Donc ça, c'était une des méthodologies qu'on a appliquées et qui va nous montrer le passage, donc un processus de passage de passants, par exemple, vers spectateurs, des visiteurs, vers collaborateurs, etc. Donc sachant que ces micro-publics, ces groupes, en fait, ne sont pas invisibles pour l'institution, ils les connaissent, mais ils ne les situent pas de manière interchangeable et évolutive. Du coup, on peut être un public à un moment donné et devenir un autre. Donc, c'est l'exemple des Fracovilles, par exemple, qui contient d'autres groupes, mais qui peuvent eux aussi être très critiques de la politique urbaine en place autour de, et dont le FRAC fait partie. Et donc, des réfractaires qui sont les anti-Joliettes. Enfin, on avait fait émerger des micro-publics spécifiques. Et ces micro-publics ne sont pas invisibles à l'institution. Par contre, ce qu'ils ont du mal à identifier, c'est les réseaux des pratiques plutôt interstitielles, c'est-à-dire qui se déroulent aux abords, parfois dans les lieux, mais qui ne sont pas vraiment... qui vont contourner, détourner l'usage ou la fonction des lieux. Et en fait, on se rend compte que cela va faire écho à cette notion d'usage faible, encore une fois, que Passeron avait avait conceptualisé autour de ces formes de réception qui sont plutôt minimales, latérales, distantes, etc. Et donc, en détournant les fonctions premières des lieux, donc là, on va le voir dans cette petite nébuleuse, pour le coup, des micro-pratiques qui vont s'imbriquer à la pratique culturelle ou pas. C'est la balade, c'est le cas de la pétanque à côté du FRAC, c'est le cas de observer la mer depuis la terrasse d'un centre commercial, et la méditation sur la terrasse du MUCEM, la lecture dans les lieux d'exposition, en fait. Et donc, elles vont poser la question d'une extension ou d'un continuum, en fait, entre les formes d'être public et donc ces défis de la catégorisation. Et ça nous amène à la question de la participation, puisqu'en fait on l'a vu ce matin et ensuite on a discuté avec Lisa autour de la pièce qui a été proposée. Et en fait cette dimension de la participation, on l'a bien... on a constaté qu'il existe clairement une logique d'injonction, une sorte d'impératif à la participation qui est opérationnelle au niveau de la conception, mais aussi de la réception, de la médiation, de nos enquêtes aussi. L'idée d'établir un cadre normatif où en fait il faut tisser les liens avec les publics éloignés, où en fait il faut faire participer les gens. Et c'est l'exemple de... Enfin, là, pour le coup, je voulais illustrer cela avec l'exemple de la Biennale de la Joliette, qui est cette biennale qui a été construite par 24 acteurs, donc des ateliers d'artistes, des cinémas, des théâtres, des archives, et qui se situe au cœur de ces quartiers de la Joliette, et qui, à la base, devait s'appeler la Biennale des voisins, mais qui a changé de nom, et en fait, elle devait être construite, programmée par eux-mêmes, mais qui proposait des choses, par exemple, voilà, une ouverture performatique, où les gens enfilaient un pantalon tous ensemble, donc une performance où les gens participaient et marchaient dans le quartier. Ensuite, il y a eu une balade proposée par les voisins, où en fait, les voisins, ils ponctuaient cette balade, ils faisaient des petites stations dans des endroits, par exemple devant un banc, pour montrer qu'il y avait une absence de mobilier de repos, ou devant un arbre qu'ils allaient habiller pour montrer, ou pour parler, pour déclamer un poème autour de cette absence d'espace vert, la coupure avec la mer, etc. Donc, romance aussi, enfin, collective qui vise de manière poétique, politique, à vraiment dénoncer ou à parler de ces récits un peu de la vie locale. Donc en fait, oui, cette tendance qui est perçue dans la création actuelle et dans la médiation et dans l'institution à faire participer, elle est porteuse d'innovation sociale parce que c'est un levier clairement de développement individuel et territorial. Et elle va valoriser des récits minoritaires, des places, des rues, etc. Et en fait, va vraiment favoriser ces échanges intersectoriels. Mais parfois, elle oublie. Et ça, c'est un petit peu... Je renvoie aux travaux d'Eva Sandry et Sébastien Piotti, qui travaillent sur les injonctions à la participation, notamment dans les dispositifs numériques. Mais là, pour le coup, on est carrément... on note qu'il y a un peu ces impensés de la médiation. Et on les a rencontrés par certaines... enquêtes qu'on a menées, et des publics discrets qui ne veulent pas participer, et des publics qui sont aussi imaginés par l'institution mais pas vécus, et du coup difficiles à saisir. Et donc là je renvoie à une autre enquête qu'on a en cours avec un journal culturel, social et solidaire qui est créé par des photographes issus de l'école des photos d'Arles et qui est vendu par des personnes en extrême précarité. Donc en fait, en devenant amis, vraiment un travail avec ces personnes qui investissent et qui vendent les lieux culturels de Marseille pour avoir une entrée d'argent par ces dispositifs, qu'on va voir comment il y a ces passages un petit peu d'un public qui n'existe pas en soi, mais qui le devient, ou qui en fait va se construire aussi à partir de cette rencontre avec le dispositif. Et donc voilà, pour terminer, je voulais juste ouvrir peut-être avec cette question du temps, puisqu'on s'est rendu compte que cette... Merci. Voilà, donc ça c'est les bâtiments modernes avec des architectures remarquables dans lesquelles se font le frac. Et donc voilà, et donc sur la question du temps et du rythme, en fait, voilà, c'était juste pour soulever la question de la temporalité, d'inscrire ces processus d'enquête, mais aussi les médiations qu'on accompagne, qu'on vient parfois aussi proposer, et des manières collaboratives, ces allers-retours avec les différentes institutions, nous permettent d'observer la construction et des évolutions différentes des processus, mais va permettre aussi de tester, d'abandonner, de revenir, de mettre des pauses, d'avoir un regard aussi critique sur nos méthodes. Et donc, il est important juste pour clore, enfin, en tout cas mon intervention, que ces méthodes sont transposables, évidemment pas les résultats, mais en fait, on constate le besoin d'études comparatives, justement, puisque c'est une analyse située, territorialisée, qui nous permet de voir des choses spécifiques. Mais du coup, on y gagnerait énormément à refaire ces études-là dans d'autres contextes, d'une ouverture vers l'international, et pour créer aussi, justement, des mises en commun des cadres théoriques et empiriques qui nous permettent de confirmer, d'infirmer et de revenir, mais sur des temporalités longues.
Et justement, juste sur cette question de la comparabilité, par exemple, ce qu'on fait sur un territoire, un quartier avec le FRAC, on le fait sur un autre quartier avec un musée, sur un autre quartier avec un opéra, et on pourrait le faire sur tous les quartiers à Marseille. Et je voulais juste rebondir sur une chose qu'a dit Marie-Christine, et après je m'arrête, promis. C'est sur la question de la démocratisation, justement, et des définitions. Nous, ce qui nous tient à cœur, et comme Marie-Christine, c'est d'aller vers ceux vers qui on ne va pas forcément et trouver des solutions pour ces publics-là. Enfin, je veux dire, la médiation culturelle, elle existe depuis maintenant suffisamment longtemps pour que pour tous les publics pour lesquels ça marche, ça va, il y a des dispositifs, il y a des méthodes, on sait faire, hein, mais d'aller vers les autres, hein, mais aussi, surtout, déjà, de s'entendre sur qu'est-ce qu'on entend par démocratisation. Moi, je l'écris dans un article sur l'art contemporain et le rapport à l'art contemporain. Qu'est-ce qu'on parle de diversification des publics, d'augmentation des publics, d'intensification de la pratique? Est-ce qu'on va vers une démocratisation qui crée du lien social ou qui crée de l'expérience esthétique? Est-ce qu'on est aussi dans une logique festive? Moi, je parlais de festivisation de l'art contemporain, ou à un moment donné, je vais même plus loin aujourd'hui, où je dis que parfois on est avec des expériences sociales sur fond d'art, hein, et qu'il y a, entre guillemets, des publics qui n'ont pas très envie d'être publics, mais ils sont dans un rapport avec l'art et la culture, autrement qu'en tant que public. Et je pense que c'est aussi ça qui rejoint ce que votre échange, c'est vers quel horizon on va, mais aussi quels présupposés et quelles attentes implicites de l'attitude des publics on façonne malgré soi, mais nous les sociologues comme les acteurs culturels, hein, et je pense que ça c'est vraiment une question que Thémis peut investiguer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on projette, mais sans vouloir, hein, pas du tout consciemment, et que les publics, eux, intègrent très très bien et reflètent. Bah, du coup, si on les pense publics comme ci ou comme ça, bah, eux, ils endossent le costume qu'on leur donne, et puis ils sont publics comme ci ou comme ça. Et nous, on essaye d'aller chercher ceux qui ne sont pas publics, je vais un peu vite, hein, mais on essaie d'aller chercher ceux qui ne sont pas publics et qui peuvent vous dire, donc tu prenais l'exemple au musée d'histoire, hein, on est dans le centre commercial à 4 enquêtrices de terrain, on fait tous les commerces, n'âge pas 80, 60 peut-être, on les fait tous, on se répartit et on va discuter avec les gens, mais comme des clientes. Et là, on a des gens qui nous disent « Oui, il y a un truc en bas, c'est un musée, mais alors, vous avez de la chance, s'il est ouvert, il doit ouvrir 3 jours par an. » Bon, le directeur était très content quand on lui a dit. Il est ouvert tous les jours, le dimanche. D'autres qui nous ont dit « Le musée, ah oui, moi, j'y suis allée. Hein. » Et moi, je dis « Vous pensez y retourner ?»« Bah non, pourquoi ?» Bah voilà, il avait vu le musée d'histoire une fois. Et on est dans ce lieu où les premiers publics, les non-publics de proximité, comme on les appelle, c'est peut-être eux qu'il faut aller chercher en premier, peut-être pas comme public, mais comme relais des publics potentiels qui sont tous les visiteurs du centre commercial. Voilà, pour clore sur cet exemple-là.
Je vais passer la parole aux questions du public, mais là, comme j'ai le micro, j'en profite. Lâchement, dire à quel point je trouve ça absolument fascinant, parce qu'on a exactement le même problème à la scène de recherche. C'est-à-dire que vous pouvez même demander à des gens dans le ENS ce qu'est ce cube, et au début, quand je suis arrivé, je m'amusais comme ça à demander aux gens « Je suis perdu, où est la scène de recherche ?» et les gens ne savaient pas de répondre, alors qu'ils l'avaient en face d'eux. Donc ça me console, c'est vrai ce qui est arrivé au FRAC de Marseille, surtout qu'en plus c'est marqué en gros, donc ça me rassure énormément. Mais c'est exactement la même chose dans le quartier, hein. Vous pouvez demander aux commerçants ou aux gens dans la rue, personne ne sait, enfin je veux dire, la majorité des gens ne savent pas, donc c'est quelque chose de... Mais là, vous parlez de comparaison, il y en aurait une fort belle à faire. Et juste pour rebondir sur ce qu'a dit Sylvia à l'instant, sur quelles attendues, en fait, en termes de réaction, on fabrique chez le public, moi, j'ose espérer qu'on n'en a aucune. Enfin, c'est-à-dire que, en tant qu'institution, on n'est pas là, et je ne dis pas qu'on ne le fait pas, hein, bien entendu, d'un point de vue concret, mais en tout cas, j'ose espérer qu'on n'est pas là pour fabriquer ce qui va se passer en termes de réception, on va dire, et j'espère que ça reste flottant. Et c'est d'ailleurs, c'était un peu l'idée du festin du mardi midi, d'ailleurs, c'est-à-dire que ça emprunte au festif à certains abords, à la convivialité, puis en même temps il y a une expérience esthétique qui se fabrique, qui est insérée dans ton travail. Enfin, mais j'espère que c'est un peu comme un signifié flottant, quoi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment.
Oui, c'est le temps de discussion qui fait que je suis obligée d'aller à l'essentiel. Non, hein. Mais deux choses sur la première, sur ta première remarque. La première chose, c'est que ce dont on se rend compte et qu'on essaie de beaucoup travailler en ce moment, donc là c'est le volet recherche plus, c'est que avant de construire des pratiques, il faut avoir une représentation. Et que nous, ce qu'on essaye de faire sur des lieux comme le FRAC ou comme l'Opéra pour les aider à aller chercher les publics qui ne viennent pas, c'est déjà que les non-publics de proximité aient une représentation de ce qu'est le lieu. Et quand on a une représentation, on peut développer une pratique. Mais si on n'a pas de représentation, c'est déjà difficile de... Enfin, je veux dire, on ne passe pas de tout à rien. Moi, je prends souvent l'exemple des tout-petits, on travaille aussi sur cette question. Comment vous voulez qu'un enfant qui n'a jamais vu un tableau puisse savoir comment le recevoir? Ou un enfant qui n'est jamais venu dans une salle de théâtre? Je veux dire, il y a des codes, il y a des normes, il y a des règles. Et donc déjà, voilà, travailler sur les représentations. Ça pour le premier volet. Pour le deuxième, ce que je veux dire, pour le développer un tout petit peu plus, mais pas trop longtemps non plus, c'est que, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas neutre. C'est, je veux pas dire que vous façonnez, dans le sens, vous dictez, ou que ça définit vraiment une manière d'être public, une manière de recevoir. Je veux dire, simplement, on a tendance à penser que les dispositifs, s'ils sont bien construits, s'ils sont de qualité, s'ils sont bien pensés, l'objectif, c'est quand même que les publics y trouvent leur compte. Donc, il y a quand même une logique souvent d'adhésion. On fait rarement des dispositifs de médiation pour avoir du rejet ou de la résistance. Or, il y a des œuvres contemporaines, que ce soit en théâtre, en musique, en art contemporain, en danse, enfin tous les domaines, qui portent en germe les rejets dont elles font l'objet. Parce que le contenu, parce que la thématique va appeler des résistances et des rejets. Et donc, du coup, là, il y a une question à se poser sur comment on compose avec ça. Ça, c'est la première chose. Et après, il y a cette idée donc, d'adhésion, mais ce que je comprends parfaitement, on ne fait pas des projets pour que les publics viennent pour les critiquer, ça paraît assez logique. Mais en même temps, il y a certains contenus d'œuvres qui vont l'appeler. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ce n'est pas neutre. C'est-à-dire qu'on a envie, et c'est normal, que comme c'est bien fait, c'est bien construit, c'est bien pensé, bah, finalement, tous les publics vont arriver en face de quelque chose qui est assez neutre. Mais non, c'est pas neutre. Ce que tu dis sur le côté festif, c'est pensé. Vous avez pensé comment vous alliez construire, par quoi vous alliez commencer, par quoi on allait enchaîner. Et ça, ce que je veux dire, c'est que c'est pas mécanique, c'est pas déterministe, hein, mais c'est pas neutre. Et déjà, de penser que c'est pas neutre, c'est déjà avoir un retour réflexif aussi sur qu'est-ce qu'on implique, ou qu'est-ce qu'on va peut-être façonner ou impliquer dans la réaction des publics. Et c'est ce que je disais, nous, quand on travaille beaucoup sur le terrain, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens avec lesquels on discute qui n'ont pas forcément envie d'être publics. Mais par contre, qui vont être ravis d'emmener qui le frère, qui le voisin. Alors, à l'Opéra, c'est une des propositions qu'on leur a fait. On a dit, au lieu de donner des places à ceux qui ne peuvent pas se les payer, donner des places au public fidèle qui vient, mais en disant, je vous donne une place, mais vous amenez quelqu'un qui n'est jamais venu à l'Opéra. C'est, voilà, vous avez une place en plus que la vôtre, mais vous amenez quelqu'un qui est jamais venu pour, et dont vous pensez que l'opéra ne lui plaît pas, ne l'intéresse pas, mais pour faire découvrir. Et nous, on essaie de réfléchir à ça, sur ce qu'on croit être neutre et qui n'est pas toujours.
Merci. Je ne veux pas du tout monopoliser la parole, je jure. Il faut arrêter. D'accord. Ouais. C'est très dommage.
Non, on a déjà 45 minutes de retard. Hein, une question à la salle, et puis après on fait une petite pause raccourcie par rapport à ce que vous avez anticipé. C'est une question. La parole est à vous. Allez, non, mais il ne faut pas que ce soit
j'ai déjà coupé.
Bien, merci encore une fois. Vous êtes... Donc, nous avons des gâteaux.
Voilà, on va aller à nouveau se nourrir, c'est un fil rouge, et boire un café à côté, il faut nous suivre, et puis après on va enchaîner directement, donc on ne va pas passer trop de temps. Oui, grand maximum, ouais.
Voilà. Bravo. enfin plus tard. Tu fais pas de mine, hein? Tu fais pas de mine.
Non, mais par contre, je fais pas de mine. T'es beaucoup dans le jugement. Beaucoup dans le jugement, je trouve.
Moi? Rigole
pas. Toi,
t'es dans le jugement.
Je rigolais, ça serait mal de connaître.
Ah oui. Au moins.
C'est difficile dans le design, je trouve.
Bah ouais, parce que là,